En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je n'aime pas reparler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat.
Au début du XIIIe siècle, le chroniqueur Marchienne écrivit un texte qui commençait ainsi. L'an du Seigneur 1214, le sixième des calendes d'août, quelque chose digne de mémoire est arrivé au pont de Bouvines, aux confins du Tournaisis. Puisque quelque chose digne de mémoire est arrivé, bienvenue donc en plein Moyen-Âge, au sud-est de l'île, à quelques kilomètres de la ville actuelle, en plein été. Le sixième des calendes d'août, comme leur nom ne l'indique pas, ça correspond au 27 juillet 1214. Ça, à la limite, on s'en foutrait un petit peu si le 27 juillet 1214 n'était pas un dimanche, c'est-à-dire le jour du Seigneur, celui de la messe et du repos. Dans toute la chrétienté, c'est le jour des interdits. On ne boit pas, on ne travaille pas, on ne se chatouille pas sous les draps, et on ne se distribue certainement pas des baffes dans la gueule. Et pourtant, en ce jour de trêve, deux armées se cherchent. D'un côté, les troupes de Philippe II de France, dit Philippe Auguste, un roi très chrétien, auréolé de sa croisade en Terre Sainte. La seconde est ce qu'on appelle en jargon militaire une coalition et ce qu'on appelle ici un bien beau merdier. On y trouve des seigneurs venus des Flandres, du Brabant, de Lorraine et puis un empereur, le très germanique Otton IV. Mais celui qui a manœuvré en coulisses pour réunir cette armée de briques et de broc n'est ni germain ni flamand. Il est même pas là d'ailleurs, c'est un plantagenet. Le fils d'Aliénor d'Aquitaine, le frère de Richard Cœur de Lion, le méchant de Robin des Bois, bref, Jean Santerre. Et Jean Santerre, il est un peu fâché avec Philippe Auguste depuis que celui-ci se fait une joie de lui coller des branlés un peu partout où il le croise. D'où besoin de revanche, d'où alliance, d'où tractation. Et dès 1213, Jean Santerre lance une vaste offensive dans toute la France. Comme Philippe Auguste n'est pas du genre à chanter des cantiques pendant ce temps-là, il laisse à son fils le soin d'affronter les Anglais du côté de La Rochelle et fonce de son côté vers la Flandre. Et voilà comment on se retrouve un matin d'été avec deux armées qui se regardent dans le blanc des yeux sur le champ de bataille. Dans un western, ce serait le moment où Morricone envoie les violons. Sur place, il y a du beau monde, à commencer par les deux souverains, Philippe Auguste et Otton IV, qui sont là, armés comme des tanks. Bon, Philippe Auguste, il était pas chaud pour se battre un dimanche, mais alors Otton, lui, il en a rien à carrer. De toute façon, il est déjà excommunié. Comme on va pas non plus laisser découper le gras du cul sans réagir, banco. Dimanche ou pas, si Otton veut sa bataille, il va l'avoir. Le terrain est étroit, saturé de combattants, 7000 du côté de Philippe Auguste, 9000 peut-être plus du côté de l'empereur. Otton, justement, commande le centre, au cœur du combat, entouré de 50 seigneurs armés jusqu'aux dents. En face, Philippe Auguste aussi tient le centre avec les fidèles des fidèles. Guillaume des Barres, Gauthier de Nemours, Gérard Latruy, des preux, des durs, des tatoués. Otton lance la charge avec un but très précis en tête, buter Philippe Auguste, là, maintenant, tout de suite, parce qu'il l'énerve. Le combat fait rage, incertain, d'une violence inouïe. Otton se fait bazarder, cul par-dessus tête par un chevalier français, mais l'infanterie à la fleur de lys ne tient pas le choc, et c'est au tour de Philippe Auguste de se trouver dans la mouise. Un mercenaire parvient à se glisser derrière le roi et à l'alpaguer avec un godendard, une pique munie d'un crochet. Le pire survient, le roi et son cheval s'écrasent lourdement sur le sol déjà détrempé de sang. Un des compagnons du dernier carré, Galon de Montigny, fait la danse du ventre avec l'oriflamme de Saint-Denis pour appeler les copains à la rescousse. Pierre Tristan, preux parmi les preux, met pied à terre et défend son roi contre les fantassins. Il y laisse la vie. Le roi finit par se relever sans une égratignure. Ses fidèles compagnons se retournent et comme ils sont un peu énervés, bah, ils foncent comme des malades en direction d'Otton. Guillaume des Barres et Gérard Latruy passent à ça de l'expédiat de Patresse, mais Otton peut remercier son armure. Il peut aussi remercier l'écuyer qui lui amène un cheval frais quand le sien est tué sous lui. À ce stade, l'empereur a compris que c'est cuit et décide d'aller promener son blouse du dimanche soir très très loin et de toute urgence. Au soir de la bataille, la victoire est totale pour le roi de France. Otton est bien, mais alors bien passé pour un con. Jean Santerre, là dans le baba, et pour le roi de France, ben c'est jackpot. Non seulement les grands féodaux de Flandre et du Nord sont calmés pour un bon moment, mais le fait d'avoir livré bataille un dimanche, manifestement à contre-cœur, lui ouvre un boulevard en termes de propagande. Dans tout le royaume, le message est clair. Dieu a choisi son camp. Une thèse que toute la communication royale se fait une joie de creuser. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Au 19e, le roman national fait de Bouvines un symbole patriotique et glorieux. On le ressort régulièrement, mais jamais autant qu'à l'été 14. 700 ans exactement après Bouvines, quand il a s'agi de mobiliser les Français au moment où la guerre de 14 s'apprêtait à débuter. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Partir pour mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère.